Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le nucléaire, stop ou encore, pour reprendre une célèbre émission de RTL. Gilles est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour Pascal.
Stop ou
encore? Bonjour aux auditeurs. Bah, on n'a pas tellement le choix, on peut pas faire stop, donc on est obligé de faire encore.
Eh bien, Virginie vous répondra parce qu'elle pense qu'il faut ne pas être manichéen sur ce sujet et être nuancé et proposer des énergies renouvelables. Amandine, rappel des titres.
À la une, ce drame près de Saint-Jean-de-Luz, tôt ce matin, trois personnes sont mortes percutées par un TER, une quatrième est grièvement blessée. Il pourrait s'agir de migrants. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le parquet et la SNCF indiquent que ces quatre victimes étaient allongées sur les voies au moment du drame. L'autre grand titre, vous en parliez à l'instant, c'est ce plan pour la France de 2030, présenté ce matin par Emmanuel Macron. 30 milliards pour redevenir, dit le chef de l'État, une nation d'innovation. Emmanuel Macron souhaite notamment relancer la filière nucléaire. Il annonce 1 milliard d'euros pour ce qu'on appelle les petits réacteurs. La météo du jour avec vous, Peggy. Des températures, faut bien le reconnaître, tout juste de saison.
Oui, juste, parce que c'est vrai qu'elles sont un peu timides par endroits. 14 degrés seulement à Reims cet après-midi, ainsi qu'à Dijon, à Metz, 16 à Paris, 18 à Brest et Rennes, 20 degrés à Bordeaux et Nîmes, 23 à Toulon et 24 à Perpignan. Côté ciel, c'est un temps calme, plutôt sec. Juste aller quelques gouttes possibles cet après-midi le long des frontières du Nord. C'est bien nuageux sur le Nord-Est et le Centre-Est, entre le Massif central et l'Isère. Et puis en allant vers l'ouest et le sud, là ce sont de belles éclaircies. C'est même un ciel bien dégagé près de la Méditerranée. Au profit d'un vent fort, un Mistral et Tramontane soufflent entre 70 et 90 km/h.
Bon, et pour demain, toujours pas de pluie?
Non, mais pas mal d'humidité le matin, notamment avec un temps couvert entre le centre-est, le massif central, le Limousin remontant vers la Bretagne. Plus au nord, un temps plus lumineux après dissipation des grisailles matinales. Et puis il fera très beau sur un tiers sud, mais toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée. Et dans la journée, les nuages vont se morceler pour laisser passer les éclaircies. Ça restera nuageux sur le nord-est comme aujourd'hui, avec une petite averse possible le long des frontières du nord et également vers le massif central. Sur la Côte d'Azur et la Corse, là, un coup de tonnerre possible avec quelques averses dans l'après-midi. Tout ça sous des températures un peu fraîches le matin comme aujourd'hui. On aura seulement 2 degrés à Auch. Dans le sud-ouest et le nord-est, ça restera frais. Et l'après-midi, toujours un peu juste, de 13 degrés à Strasbourg à 22 à Toulon, 16 à Paris, 18 à Toulouse et Rennes.
Merci Peggy.
Merci Amandine.
Ils ont voulu vous couper la chic.
C'est dommage. 13h05,
je suis à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Virginie Garin, restez avec nous, c'est la spécialiste de ces questions pour RTL. Et son avis, évidemment, est primordial dans ce débat parce que c'est une experte. Gilles est avec nous. Moi, je ne suis qu'un béotien, évidemment. Gilles est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour. Et... tout ça me laisse sceptique. On me parle de faut pas être manichéen, mais si c'est pas du manichéanisme de vouloir mettre des énergies éphémères contre des énergies permanentes, tout en augmentant les consommations et en réduisant l'offre, je dirais, madame, j'ai plus grand respect pour votre avis, mais si vous n'avez pas Merlin L'Enchanteur et Panoramix avec vous, ça va être compliqué.
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'invente. Mécaniquement, on ne pourra pas faire sans baisser le nucléaire parce que nos centrales, elles sont vieillissantes. Même si on les prolonge, on n'aura pas le temps de construire suffisamment de réacteurs. Donc qu'est-ce qu'on fait à la place? Soit on décide de mettre du charbon, les Allemands l'ont fait, c'était une catastrophe écologique. Nous, on a décidé de fermer nos centrales à charbon. Donc qu'est-ce qui reste? Eh bien, les énergies renouvelables. Alors, après, il n'y a pas que le nucléaire, il n'y a pas que les éoliennes et le solaire. Hein. Vous avez aussi les barrages, par exemple. Vous savez intéressant. Vous savez, les éoliennes, par exemple, quand il n'y a pas de vent, ça ne produit pas. C'est une des critiques qu'on fait aux éoliennes.
Alors, le solaire, c'est un peu pareil.
Quand elles produisent, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des éoliennes près d'un barrage hydroélectrique. Grâce à l'énergie éolienne, vous remontez avec des pompes l'eau dans le barrage, vous remplissez le lac. Et là, l'eau, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez pour produire de l'énergie, pour pouvoir vous éclairer. Donc il y a aussi des solutions pour stocker les énergies renouvelables. Donc quand vous dites qu'elles sont intermittentes ou qu'on ne peut pas les utiliser tout le temps, il y a aussi des solutions à terme de stockage.
Madame, moi je vais vous poser une question. Tous les gens qui veulent de l'éolien, est-ce qu'ils seraient d'accord pour avoir une éolienne devant chez eux? Voilà, parce que si vous voulez, ceux qui donnent les consignes ne sont pas ceux qui les subissent. Je connais personne dans mon entourage qui voudrait être à côté d'une éolienne.
Alors, est-ce que vous connaissez toujours... beaucoup de gens qui ont envie d'être avec un réacteur nucléaire ou avec une centrale à charbon?
Ça influence moins de monde. Moi, si vous voulez, je fais beaucoup de routes. Des éoliennes, j'en vois partout. Et je ne peux pas dire que ça rende le paysage joli. Outre le fait que, en termes de production, si on devait demain produire... Si vous voulez, aujourd'hui, avec notre nucléaire, on est parfois à la limite de nos nos besoins en hiver. Expliquez-moi comment avec de l'éolien on va couvrir notre besoin. C'est juste une histoire de, c'est une histoire de balance. Alors moi je mets pas en cause le fait que.
Et on parle pas de la voiture électrique.
Et on parle pas de la voiture électrique.
On va tout faire avec de l'éolien. Je vous parle d'un mix, c'est-à-dire un peu de tout.
Mais quel est le problème au fond du nucléaire ? C'est ça que je saisis pas. C'est quoi le problème du nucléaire ?
C'est quoi le problème du nucléaire ?
Oui.
Moi, je pense que le principal
si
problème,
on fait
100% c'est qu'il va coûter,
nucléaire,
c'est qu'il va coûter beaucoup plus cher que les autres énergies, par exemple.
Alors, Madame Guérin, moi, si vous êtes la spécialiste, moi, je vais vous poser une question. J'ai vu une émission extrêmement intéressante qui disait que le nucléaire, il y a deux technologies possibles. Il y en a une qui a été privilégiée, c'est les EPR, c'est-à-dire des grosses structures en béton très lourdes avec des trucs sous pression relativement dangereux. Il y a une autre technologie qui n'a pas été développée parce qu'elle n'a pas été retenue par les augures de l'époque, qui s'appelle les sels solubles. Est-ce que la bonne solution, ce ne serait pas justement pour briller et se retrouver premier dans un secteur au lieu d'être toujours à la traîne, de se soucier de fabriquer de l'énergie nucléaire avec des technologies nucléaires plus légères et moins contraignantes.
Oui, sans doute, mais pour construire un réacteur, il faut des années, monsieur. Donc moi, je suis juste en train de
vous
dire
qu'on n'aura pas
le temps.
Je vous parle pas de réacteur, là vous parlez d'EPR, c'est la technologie arrêtée, mais il y a une alternative qui sont les sels solubles, et ça ce sont des unités légères qui donc sont facilement industrialisables.
Il faut expliquer peut-être ce que sont les sels solubles.
Les sels solubles, je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la chose de chercher dans les enregistrements, ça devait être un thème sur le nucléaire qui disait mais on a fait des choix arbitraires en disant c'est ça et puis c'est pas autre chose. Puis il y avait sans doute des intérêts derrière qui ont dit « Ah oui, mais c'est très bien que ça soit ça ». Mais il y a d'autres manières de produire du courant nucléaire avec des sels solubles qui sont des unités légères, industrialisables, et pour lesquelles il serait possible, probablement, mais c'est peut-être là qu'il faut mettre de l'argent, de la recherche, de faire des unités qui sont parsemées, qui surtout prennent peu de place et ne polluent ni
Merci
le paysage
Gilles.
Ni l'eau.
Merci Gilles, on va marquer une première pause. C'est vrai qu'il y a un inconvénient majeur au nucléaire, majeur. C'est que s'il y a un accident un jour, c'est une catastrophe totale. Ça, c'est vrai. Le risque zéro n'existe pas. Quand il y avait un accident dans une mine, hélas, ça tuait 200, 300 ou 400 personnes, ce qu'on appelait un coup de grisou, mais c'était circonscrit. Là, effectivement, un accident nucléaire, ça peut avoir des conséquences terribles. Bon. Mais il y a 56 centrales en France et il n'y a pas un incident majeur depuis 1956. Alors, à partir de ce moment-là, ou avec le principe de précaution, on les ferme tout de suite. Et ça peut s'entendre, comme toujours, tout peut toujours s'entendre. Ou on considère que le risque zéro n'existe pas et qu'il faut assumer un risque, j'imagine, infinitésimal. La pause.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je salue monsieur Tessier pour ce débat sur le nucléaire.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et c'est vrai que c'est le sujet qui vous fait réagir au standard, aux réseaux sociaux. Le nucléaire, stop ou encore, faut-il tout miser sur cette énergie ? Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait investir 1 milliard d'euros dans le nucléaire d'ici à 2030. Objectif, développer notamment de petits réacteurs. Alors, faut-il continuer d'investir dans ce domaine ? Oui pour Gilles, qui a été le premier à réagir au standard et à dialoguer avec Virginie Garin.
On parle de faut pas être manichéen, mais si c'est pas du manichéanisme de vouloir mettre des énergies éphémères contre des énergies permanentes, tout en augmentant les consommations et en réduisant l'offre, je dirais, madame, j'ai plus grand respect pour votre avis, mais si vous n'avez pas Merlin Enchanteur et Panoramix avec vous, ça va être compliqué.
Alors qu'en pensez-vous ? Faut-il tout miser sur le nucléaire ? 3210, 320.
Et vous savez que ce débat existe depuis 50 ans, parce que quand j'étais enfant, dans les années 70, il y avait des manifestations très fortes, notamment en Allemagne, et il y a des petits autocollants jaunes, c'était nucléaire, nein, donc nucléaire, non merci. Et effectivement, c'est les militants anti-nucléaires posaient ça sur leur voiture ou sur leur sac lorsqu'ils étaient étudiants ou lorsqu'ils étaient collégiens. Francis est avec nous, bonjour, vous êtes enseignant justement à Nancy, votre avis ?
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs. Écoutez, si vous voulez avoir un avis d'un vrai spécialiste des énergies en général et du nucléaire en particulier, il faudra que vous invitiez Jean-Marc Jancovici, mon maître à penser dans le domaine.
Il est tous les samedis sur RTL, ça tombe bien.
Ouais, eh bien, il faut l'écouter un peu plus, madame, parce que l'auditeur précédent a dit beaucoup de choses. Effectivement, l'intermittent à la place du permanent, ça pose de toute façon un gros problème. On peut couvrir tout le territoire en éolien et en solaire. Il faudra, au cas où on n'aurait ni soleil ni vent, et je vous rappelle que cet été, on a eu le plus mauvais rendement éolien En Europe, parce qu'on nous explique que bah, quand il n'y a pas de vent en France, il y en a en Allemagne, etc., bah, et ça ne se passe pas tout à fait comme ça. On a eu le plus mauvais rendement éolien depuis qu'on fait des mesures autour de l'éolien. Et donc, bah, moi, je veux que ma voiture électrique, c'est si c'est une solution à laquelle je ne crois pas, mais bon, je veux que ma voiture électrique puisse fonctionner tout le temps et pas quand il y a du vent ou du soleil.
Non, mais par contre, vous pouvez la recharger quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. C'est justement l'une des solutions, c'est de pouvoir adapter nos besoins, notre consommation d'électricité en fonction de ces énergies. Donc, le chauffe-eau, par exemple, on l'a souvent rechargé la nuit parce que l'électricité coûtait moins cher. Avec l'éolien ou le solaire, on pourrait chauffer son eau la journée quand il y a du soleil ou quand il y a du vent.
Le rendement est tellement faible que même quand vous aurez couvert le territoire complet, on n'arrivera pas à répondre
à la
demande.
Après, c'est quand même incroyable que tout le monde veuille soit couvrir le territoire complet d'éoliennes, soit ne faire que du nucléaire. Je ne vous explique qu'une chose, c'est qu'on peut mélanger les deux. Effectivement, l'intermittent ne peut pas être... grands défenseurs des énergies renouvelables vous diront qu'on ne peut pas faire qu'avec des énergies renouvelables. Pour l'instant, c'est vrai. Et plus personne ne demande, à part les anti-nucléaires notoires, plus personne ne demande de sortir du nucléaire demain matin. Il faut deux.
Puisque Jean Covici intervient, d'après ce que vous avez dit, toutes les semaines sur votre antenne, vous devriez l'écouter un peu plus et essayer de comprendre ce qu'il dit, parce que le mix énergétique...
Je l'écoute avec attention, c'est très intéressant.
En revanche, Francis, soyons courtois, parce que ça, c'est pas agréable pour Virginie, ce que vous dites. Non, mais c'est vrai, c'est pas agréable.
Bah écoutez, alors si j'ai vexé Virginie, je m'en excuse.
Ah non, vous n'avez pas vexé.
Pour la connaître, c'est pas ce qui la vexera. Mais en revanche, c'est pas courtois. Ça, je me permets d'intervenir sur ce sujet.
Alors,
pas élégant, disons.
Je conseille à Virginie regarder ce qui se passe depuis 20 ans en Allemagne. L'Allemagne a un ennemi économique qui est la France. La France a un avantage compétitif considérable sur l'électricité parce que la France a, grâce au plan nucléaire...
Un savoir-faire, nous sommes d'accord, c'est l'excellence française. C'est incontestable.
Et surtout un tarif en énergie.
Et l'Allemagne est différente parce que c'est vrai aussi que pour des raisons politiques, Mme Merkel avait fermé, je crois, 8 centrales nucléaires pour faire plaisir, entre guillemets, en tout cas pour des raisons électoralistes, pour négocier avec les écolos. Et du coup, nous, on a fermé, et c'est François Hollande qui a pris cette décision, Fessenheim, pour faire plaisir à Mme Merkel.
Mais alors, vous avez raison, il ne faut surtout pas faire comme l'Allemagne. C'est-à-dire fermer toutes les centrales en même temps et d'arrêter le nucléaire du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement, il faut réduire la part du nucléaire.
Non, alors, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que les Allemands ont fait un lobbying extraordinaire depuis 20 ans pour expliquer que le nucléaire, c'était pas bien, ça date même d'avant Merkel.
Oui, mais c'est les années 70, il y a toujours une forte opposition au nucléaire. Mais on va marquer une pause si vous voulez, Francis, et puis Didier nous attendra, parce qu'il faut que la parole tourne, si j'ose dire, et puis on échange ensemble, dans la courtoisie, l'élégance et la bonne humeur, quand même, ce qui est la marque de fabrique de cette maison. Damien Béchiot, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Virginie.
Bon, vous avez un avis sur le nucléaire, parce que parfois c'est un sujet où on n'est pas obligé d'avoir un avis. Hein.
Bah, j'en ai pas spécialement.
Ouais. Faut écouter, vous avez raison. Et
j'écoute et je me ferai un avis après, sûrement.
Bon, et je veux dire, sur Facebook, est-ce que monsieur Olivier qui écoute a un avis ?
Bien sûr, je vous écoute, Pascal, avec attention.
J'espère que vous écoutez, parce que quand même, vous êtes là pour ça. Mais est-ce que vous avez un avis ? Est-ce que les auditeurs, surtout, ont un avis depuis le départ ?
Est-ce que vous voulez des commentaires sur les réseaux sociaux ?
Bah oui, c'est pour ça que je vous appelais.
Bon, super.
C'était la question, Olivier.
Alors, pour José, nous sommes pour l'instant incapables de remplacer le nucléaire, mais à l'approche de l'élection, le sujet revient sur la table. Avis partagé par Marie-Paul, les éoliennes, ce n'est pas beau. Dans l'Aude, il y en a partout, et ça dénature le paysage. De plus, ce n'est pas rentable. Et on conclut avec Rémi, il nous écrit, les défenseurs du nucléaire sont bien agressifs. Je préfère habiter à côté d'éoliennes que d'une centrale vieillissante. Ce n'est pas rassurant.
A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Monsieur Tessier.
C'est l'un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Le nouveau Superman, le fils de Clark Kent, assumera son identité de bisexuel. Une annonce faite par l'éditeur DC Comics, une bande dessinée sortira en novembre. Le fils de Clark Kent, John Kent, tombera amoureux d'un homme. Sur un dessin, on voit le nouveau Superman embrasser sur la bouche un journaliste. Il sera aussi très impliqué contre le dérèglement climatique ou la crise des réfugiés. Qu'en pensez-vous ? L'éditeur parle d'une adaptation à l'évolution des mœurs. Pascal.
Oui, mais alors d'abord, je trouve ça évidemment très bien, mais ne soyons pas dupes non plus de ces sujets-là. C'est aussi une manière de faire de la publicité. C'est ça qui est un peu, non pas pervers dans nos sociétés d'aujourd'hui, mais forcément cette société, l'éditeur DC Comics, bah, il a réussi son coup, parce qu'aujourd'hui on parle de lui. Alors c'est vrai que c'est une bonne idée, sans doute, que Superman soit bisexuel, en tout cas, ça, c'est intéressant, parce que c'est le monde
le
d'aujourd'hui.
Fils, le fils de Superman.
C'est le fils de Superman.
C'est le fils de Superman, ouais, le fils de Clark Kent et de Lois.
En fait, je savais même pas que Superman avait un fils, pour tout vous dire. Mais évidemment qu'il y a une part de marketing là-dedans, et que les sociétés, évidemment, pensent aussi publicité. Didier, bonjour. On va terminer cette première demi-heure avec Virginie Garin, que je remercie d'être avec nous, qui est experte, et je disais engagée. Vous acceptez ce terme, engagée ?
Non, je ne suis pas engagée. Je suis engagée dans la nuance, Pascal.
Eh ben, c'est voilà. c'est un engagement.
Exemple, voilà, ça peut être un engagement.
Non, mais vous êtes experte.
Ni noir, ni blanc.
Et engagée. Comment dire oui, c'est Didier. Didier.
Oui, c'est ça. Bonjour Pascal.
Mais je vous en prie,
bonjour,
Didier.
Madame, bonjour côté. Didier.
Bonjour. Alors moi, je vais vous dire sincèrement, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, le nucléaire, il n'y a rien de mieux pour le développement de toutes les énergies et ainsi que l'évolution de, comment ça s'appelle, de toutes les entreprises. Aujourd'hui, on nous parle des éoliennes. Les éoliennes, c'est très bien. On a l'impression d'avoir des mouettes dans le ciel et puis qui tournent de temps en temps, pas tout le temps. Et en plus, j'ai appris dernièrement qu'on ne pouvait même pas les recycler. Une grande partie, on ne peut pas être recyclée. Il y a une autre chose qu'on a oublié de penser, vous, madame, qui êtes experte. En France, on a plus combien de moulins qui sont sur des grandes rivières. Ces moulins fabriquaient de l'électricité. Et aujourd'hui, ces moulins, si on les remettait en place, parce qu'on s'est empêché de tous les enlever, d'enlever les vannages et tout le tralala.
Et on peut aussi, on peut se mettre à pédaler, mais si on...
Non, mais dire... attention, et Pascal.
Monsieur Didier, je veux bien qu'on fasse de l'électricité avec nos moulins, mais je suis pas sûr que c'est ça qui va nous...
Oui, mais d'hydroliennes, vous savez, vous mettez des petites hydroliennes dans les rivières, ça fait office de moulin, ça fait l'électricité, mais c'est pas avec ça qu'on va remplacer les
centrales
nucléaires.
Oui, mais enfin, je peux vous dire... Oui, mais enfin, bon, on en a déjà en pleine mer qui est déjà mis. Et moi, je pense que c'est déjà bien. Et moi, je suis pour le nucléaire au maximum. Parce que je vais vous dire sincèrement, aujourd'hui, tout le monde parle de supprimer le nucléaire. Ah oui, très bien. Mais le coût de l'électricité...
Non, mais tout le monde n'en parle pas, justement, puisqu'au contraire, Emmanuel Macron va l'encourager.
Mais il a raison. On peut pas continuer à dire comme ça. Vous avez vu l'Allemagne ? L'Allemagne, il travaille avec du charbon. Non, mais attendez, arrêtons. Arrêtons, on n'est plus dans les années 1900.
Bon, Virginie Garin, moi j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'on peut avoir confiance en notre filière nucléaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est certain qu'on n'aura pas de catastrophe nucléaire parmi les 56 centrales nucléaires ?
Alors, certains, non. Par contre, en France, on a la chance d'avoir une autorité de sûreté indépendante qui ne mâche pas ses mots. Quand il y a des problèmes de sécurité, elle le dit. Il y a 2 ans, son directeur a dit, attention, il y a des risques qui augmentent, il faut faire des travaux. Donc, cette autorité est plutôt rassurante. Après, il faut avoir confiance dans la filière nucléaire. Alors, nos centrales, elles sont vieillissantes. Il faut faire beaucoup de travaux dans un contexte de rentabilité économique croissante pour les opérateurs, pour EDF par exemple. Et est-ce qu'on peut avoir confiance en cette filière ? Ben, malheureusement, elle a démontré il y a 8 ans que non, puisque vous vous souvenez, au Creusot, dans l'usine d'Areva, qui fabrique des composants pour fabriquer des centrales nucléaires, ils se sont aperçus qu'il y avait des défauts sur certaines pièces, que ça allait coûter très cher de les remplacer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont falsifié les dossiers de sécurité. Donc là, l'autorité de sûreté nucléaire s'est fâchée.
Mais qui a falsifié ?
Les dirigeants d'Areva, l'entreprise du Creusot. Vous vous souvenez pas de cette actualité il y a 8 ans ? Donc il y avait des milliers de dossiers qui ont été falsifiés, donc l'autorité de sûreté nucléaire a demandé des explications, a demandé de rectifier, mais la filière nucléaire a montré qu'elle pouvait de temps en temps commettre quelques écarts. Donc avoir confiance à 100%, c'est un petit peu compliqué quand on voit cet exemple.
Didier, un mot de conclusion, et puis après nous changerons de sujet.
Je voulais vous dire, Pascal, nous avions à côté de Dreux, nous avions Radio Technique.
Et cette c'est quoi Radio Technique ?
C'était la fabrication de télévisions, etc. Et figurez-vous que ces gens-là, ils ne prenaient pas d'électricité française, l'électricité qui venait des centrales, ils avaient leur propre centrale à eux. Et je peux vous dire qu'elle était branchée sur la rivière et ça fonctionnait très bien. Alors c'est pour ça que je dis aujourd'hui, quand on veut, on peut. Quand on veut pas, on peut pas.
Je comprends pas tellement votre exemple parce que vous êtes trop nucléaire.
Relocaliser l'énergie, ça c'est intéressant aussi. De produire l'énergie là où on en a besoin. Par exemple en Bretagne, ils ont besoin d'énergie. Et là, pour le coup, les énergies renouvelables, qui sont des plus petites structures, peuvent aider à relocaliser l'énergie.
Pour conclure, et vraiment je remercie grandement Virginie d'être restée avec nous parce que c'est intéressant d'avoir vraiment l'expert de la rédaction, et c'est bien lorsque les journalistes viennent autour de cette table pour discuter même avec les auditeurs. Sur le plan politique, par exemple, Yannick Jadot, s'il est élu président de la République, il arrête les centrales nucléaires ?
Non, il ne les arrête pas du jour au lendemain. On avait une sénatrice proche de lui avant-hier sur RTL qui disait on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. D'accord. On va essayer de sortir progressivement.
D'accord, sortir. Oui. Et qui est le plus radical encore dans l'échiquier politique ? Qui est anti-nucléaire en clair ?
Non, dans l'échiquier politique. Alors après, vous avez des organisations, des ONG, des associations.
Non, mais je parle dans le casting des
Ça devrait être en théorie les Verts, mais les Verts ne disent pas il faut du jour au lendemain arrêter les centrales nucléaires. Ils sont conscients qu'il faut un mix énergétique. Par contre, ils veulent sortir du nucléaire progressivement.
C'est-à-dire qu'à 50 ans, par exemple, ils veulent sortir du nucléaire.
Plutôt dans les 15-20 ans, on va essayer de réduire. Mais de toute façon, c'est dans la loi en plus. Alors vous me direz, on peut changer dans la loi. Mais vous savez que la loi, elle prévoit qu'en 2030, on soit à 50% de nucléaire, de production nucléaire, alors qu'aujourd'hui on est à peu près à 70.
Bah écoutez, vraiment merci. C'est la première fois que Virginie venait aussi longuement avec nous et je la remercie grandement parce que c'était intéressant d'écouter les arguments et puis d'écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle, si j'ose dire. Merci donc à ces premiers auditeurs et on va parler de Superman dans un instant parce que figurez-vous que je ne savais pas que Superman déjà avait un enfant. Donc cet enfant s'appelle comment Kent, je crois, c'est bien ça. C'est le fils de le fils de Clark Kent et il va assumer son identité de bisexuel et donc voilà, vous allez pouvoir réagir parce que c'est paraît un sujet quand même primordial. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes.
Heureux.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Parlons de la présidentielle, de la primaire à droite dans quelques minutes. Depuis des mois, Xavier Bertrand ne voulait pas en entendre parler. La primaire, plus jamais. Il le disait sur France 2 il y a un peu plus d'une semaine.
On en a soupé les primaires. Je ne changerai pas de position. Je ne me renierai pas. Ma conception d'élection de présidentielle, c'est un homme face aux Français qui présente son projet.
Bon, hier soir sur TF1, le candidat a changé d'avis.
Je participerai à ce congrès. La solution de facilité, c'était pas ça. La solution de facilité, c'était de faire cavalier seul.
Xavier Bertrand participera donc au congrès des Républicains le 4 décembre, qui désignera le candidat de la droite à la présidentielle. Une annonce qui met fin à des semaines d'incertitude. Sympathisants, militants LR, dans quel état d'esprit êtes-vous? Êtes-vous confiant? Ce congrès peut-il bien se passer? 32-10, 3-2-1-0.
Et on joue un peu sur les mots, parce que le congrès, c'est une primaire. Oui. C'est 25 000 militants qui vont devoir départager 4 personnes, 4 candidats. Donc je veux bien qu'on appelle ça une primaire fermée ou une primaire ouverte, si c'était ouverte à simplement ceux qui n'étaient pas militants. Mais c'est là que Xavier Bertrand, en fait, il dit le contraire à 10 jours d'intervalle de ce qu'il avait dit. Véronique est avec nous, bonjour Véronique.
Bonjour Pascal.
Et nous traitons donc de ce sujet Superman. D'abord, est-ce que vous saviez que Superman avait un fils?
Non, même pas.
Ah ben moi non plus, je ne le savais pas. Donc il s'appelle, c'est Clark Kent.
Il paraît. Alors, je connaissais Kent avec
ça, c'est Barbie, Superman, Clark Kent. Son fils, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs, pour tout vous dire. Alors, l'auteur de BD a dit « J'ai toujours dit que chacun avait besoin de héros et avait le droit de se représenter dans ses héros. » C'est Tom Taylor qui parle. L'annonce de DC Comics était ainsi titrée « John Kent a trouvé son identité. Le nouveau Superman s'affiche comme bisexuel. » Il s'appelle John Kent, donc le fils de Clark Kent. Et il est bi, et je disais tout à l'heure qu'il y a une part de marketing, bien sûr, parce que c'est une façon pour la société de faire parler de soi. Même si c'est peut-être une bonne idée, sans doute une bonne idée.
Ouais, moi je trouve dommage. Enfin, quand on veut faire partie de la normalité, on met pas les choses en avant. Et là, on s'aperçoit qu'on peut pas avoir une pub télé ou affichée, etc., sans avoir forcément maintenant deux filles qui s'embrassent, deux hommes qui s'embrassent. Alors il y a quelques années, c'était forcément une personne issue de la diversité avec un blanc, sous prétexte de racisme, de machin, tout ça. Maintenant, on est parti sur les trucs genrés, dégenrés. Donc ça y est, maintenant partout. Moi, ça m'agace. Bon, vous avez pas.
Qu'est-ce qui vous agace?
Mais d'avoir dans toutes ces séries, dans tous ces trucs, systématiquement, deux nanas qui sont ensemble, deux mecs qui sont ensemble. Enfin, si on
c'est-à-dire
veut faire partie de la normalité,
vous y voyez quoi ? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ?
Mais ça me gêne qu'on mette en avant.
Vous parce trouvez que c'est mettre en avant, de raconter dans une histoire deux hommes ou deux femmes qui s'embrassent ?
Mais
on les met en avant aussi. Alors, mais quand un homme embrasse une femme, on met en avant aussi un couple hétéro ?
Non, mais la finalité essentielle du couple, à la base, c'est pour la survie de l'humanité. Hein. Donc, un homme et une femme, pour procréer, pour faire des enfants, pour la survie de l'humanité. Bon, effectivement, qu'il y ait des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes, si on veut que ce soit dans la normalité, bah, c'est dans la normalité, mais on ne le met pas.
Mais la normalité, c'est là, c'est des questions, la normalité. Qu'est-ce que c'est la normalité ? C'est le nombre ?
C'est-à-dire
que s'il y a plus d'hétéros que d'homosexuels, on considère que la normalité, c'est l'hétérosexualité ?
Moi, la normalité, c'est à quoi sert le couple ? À la procréation. Comment font deux hommes, deux femmes pour procréer ? Ils ne peuvent pas. Donc, qu'on dise, effectivement, on peut avoir des amours qui ne soient pas un homme, une femme.
Véronique, pardonnez-moi, mais ce que vous dites, c'est pas vrai. Un couple, il y a plein de couples qui... Alors, tous les couples qui se rencontreraient après 41 ou 45 ans, qui par définition ne peuvent plus procréer, on n'aurait pas le droit d'être des couples ?
Non, Pascal.
Vous dites finalité, à quoi sert le couple ?
La finalité essentielle. À
c'est la vôtre, on n'est pas obligé d'avoir des...
Non.
Enfin, Véronique, on n'est pas obligé d'avoir des enfants quand même. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'enfants et puis qui sont en couple.
Non, mais à la base, pourquoi il y a eu effectivement des hommes et des femmes ? C'est pour que l'humanité puisse survivre. Il n'y aurait pas eu et des hommes et des femmes, des sexes différents qui peuvent effectivement faire qu'il y a un enfant qui naisse, l'humanité n'aurait pas duré longtemps.
Je ne sais pas quoi répondre à ça, en fait.
Si. Alors, moi, que dans les jouets, on dise effectivement qu'il n'y ait plus de jouets de garçons. Là, je suis complètement d'accord. Effectivement, je vois pourquoi il y aurait des jouets de filles, des jouets de garçons. Moi, j'ai eu des garçons, ils ont joué à la poupée. Ça m'a proposé. Enfin, voilà, j'ai eu, moi, acheté un jour, il y en a qui m'a demandé un baigneur, j'ai acheté un baigneur. Enfin, voilà, je ne suis pas pour qu'effectivement les filles soient en rose, les garçons en bleu. Et que... Mais on ne peut plus voir des publicités, on ne peut plus voir des séries sans avoir systématiquement le stéréotype de nana, de mec, de.
Enfin, mais si vous êtes sûr de ça dans toutes les séries, vous voyez des... Moi, je regarde peu les séries.
Moi, je regarde de temps en temps parce que, effectivement, entre deux programmes, ça m'arrive de zapper. Et je me dis, ça y est, encore, il a fallu qu'on ait effectivement de... Je vous dis, si on veut être dans la normalité, on n'est pas en avant. Oui, puisqu'on nous dit que c'est normal. OK, puisque c'est normal, pourquoi est-ce qu'on en retrouve maintenant systématiquement partout ?
J'ai l'impression qu'il y a...
On a l'impression d'avoir du matraquage. Et avec ce matraquage, on arrive à des gamins qui ont quoi ? Qui ont 11 ans, qui sont en recherche, effectivement, de ce qu'ils vont devenir étant adultes, etc. Et ce qui est normal, puisque effectivement, quand on arrive adolescent, que le corps change, etc., au niveau de la sexualité, on est un petit peu... Il y a beaucoup de jeunes garçons qui ont des expériences homosexuelles parce que ils se cherchent un petit peu. J'ai l'impression qu'en accentuant ça, on va effectivement de plus en plus inciter, alors qu'on n'a pas les incités.
Je ne pense pas qu'on incite personne dans sa sexualité.
Je vais vous dire quelque chose.
Tout le monde s'accorde à dire que ton orientation sexuelle, tu t'en aperçois plus exactement entre 8 et 11 ans. Voilà. Tes premiers sentiments, et on sait tous comment on les a connus, entre 8 et 11 ans, on sait si on est attiré plutôt vers des filles, plutôt vers des garçons. Je suis pas sûr que, comme vous dites, en incitant d'ailleurs, je suis même persuadé du contraire, on n'incite pas à être attiré par un garçon ou par une fille. Vous naissez sans doute avec en vous cette orientation sexuelle, mais c'est un grand débat ça aussi, si on est naïté hétéro ou si on le devient. Véronique, merci en tout cas. Merci.
Alors oui, mais Pascal, pourquoi autant de jeunes hommes ont des expériences homosexuelles si c'est si carré que ça ?
Écoutez, je vais pas rentrer même dans le détail, mais vous pouvez avoir des aventures homosexuelles d'abord par curiosité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire « Tiens, je vais essayer parce que ça existe ». Et vous pouvez également avoir des aventures homosexuelles sans être homosexuel. C'est pas simplement par plaisir, pourquoi pas, vous n'êtes pas forcément amoureux des hommes avec qui vous pouvez coucher, mais vous avez un plaisir physique qui se passe dans cet acte-là, et c'est vrai aussi pour les femmes, j'imagine. En tout cas, j'imagine, parce que comme toujours, il y a autant de cas parfois, que autant de sexualité que de cas dans la nature. Non, Véronique, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas convaincue par ce que
je dis. Dans ces cas-là, c'est le sexe pour le sexe. Dans ces cas-là, c'est le sexe pour le sexe.
Mais il y a plein de gens, c'est pour qui. Mais Véronique, il y a beaucoup de gens pour qui c'est le sexe pour le sexe, oui.
Ok, je suis d'accord.
Ça existe, enfin, vous le savez bien, on ne va pas se raconter de salade.
Pascal, je suis d'accord. On arrive à un âge, effectivement, où on comprend que ça, c'est. Effectivement, il y a des gens qui.
Et pourquoi pas d'ailleurs, si c'est entre adultes consentants, s'ils se font du bien, ça ne peut pas nous faire du mal, comme dit l'autre.
Il y en a, c'est le jardinage, il y en a d'autres, c'est la rando. Il y en a d'autres, effectivement, c'est la sexualité. Ok. Mais moi, là où ça, c'est pas que ça me dérange, mais je me dis, si on veut que ce soit dans la normalité, pourquoi le placarder partout? C'est là où quelque part que ça soit placardé, c'est ça qui quelque part m'interroge. Ben si merci. On veut être dans la normalité, on placarde pas.
Bon, bah merci en tout cas, Véronique. Et c'est toujours intéressant de parler. En général, c'est intéressant de parler d'amour, de sexualité,
de tout, Pascal.
Mais de tout. Et puis parfois la sexualité ne va pas avec l'amour. Et puis parfois ça va. Et puis voilà, il y a autant de. Tout le monde sait ça. Parfois, Damien, j'imagine, vous avez été amoureux, et puis vous étiez avec des jeunes gens ou des jeunes femmes avec qui vous étiez moins amoureux. Et puis vous pouviez quand même
c'est
avoir
vie,
un peu de plaisir. C'est bien, il est 13h40. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reçoit dans quelques minutes à 14h le président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur de Moulin-Beaufort avait estimé que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Et justement, sur le rapport Sauvé et la pédocriminalité dans l'Église catholique, Christine Pedotti appelle à la démission collective des évêques de France. La directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens était l'invitée ce matin sur RTL d'Alba Ventura.
Dans n'importe quelle organisation, quand une catastrophe pareille se produit, les dirigeants démissionnent. Montrez-nous que vous avez compris qu'il s'est passé quelque chose.
Mais vous les mettez tous dans le même sac?
Mais oui, bien sûr, parce qu'ils font corps. Je ne dis pas qu'ils sont coupables. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que très peu sont coupables à titre personnel. Mais tous sont responsables. Je pense que c'est le prix qu'il faut payer pour sauver une parole crédible de l'Église.
Une démission collective des évêques de France. Qu'en pensez-vous? 3210, 3210.
Le fils de Clark Kent, qui est Superman, s'appelle John Kent. Et ce fils est désormais bisexuel, comme l'a annoncé son créateur. Alors là, on va faire un petit débat, comme on les aime, dans les auditeurs, avec Pauline, qui est étudiante, donc qui est à une vingtaine d'années, j'imagine. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Et François, qui habite le Calvados et qui est retraité. Bonjour François.
Bonjour.
Et pourquoi je disais que c'est un petit débat comme on les aime, c'est que sur ce sujet, comme sur d'autres, je trouve que les différences sont souvent générationnelles. Et que Pauline, qui a 20 ans, et trouve ça à 100% pour, et vous, François, avez peut-être davantage de réticence. Alors je vous propose d'écouter Pauline, et puis François va pouvoir échanger avec elle. Pauline, pourquoi vous êtes pour ?
Alors, je vous avoue que ça m'a un peu coupé l'air sur le pied le témoignage précédent parce que, effectivement, comme vous dites, je pense qu'il y a vraiment une question de génération dans toute cette histoire. Pour moi, je suis pour parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin de surreprésenter la communauté bisexuelle ou la communauté LGBT en général pour la rendre normale. Je pense qu'elle fait partie aujourd'hui des séries, des films et même des comics, tout simplement parce que, effectivement, c'est une réalité de la société d'aujourd'hui. Les créateurs du comics ont simplement voulu représenter une réalité du 21e siècle, tout à leur honneur. À mon sens, la culture, elle a toujours été un véhicule d'idées, elle a toujours été, le miroir de la société dans laquelle elle évolue. Et donc, pour moi, ça me semble. Je ne me suis même pas posé de questions.
Alors, soyons pas naïfs quand même, j'ai dit qu'il y a toujours une part un peu de marketing et de faire parler de soi et de publicité.
Ah oui, ça c'est sûr.
Voilà, ça c'est ce que j'ai dit.
C'est sûr, mais c'est comme les séries Netflix où, effectivement, comme disait l'auditrice précédente, il y a toujours un couple homosexuel, toujours un personnage qui se pose des questions sur son identité, etc. Mais franchement, même s'il y a un côté marketing, c'est comme pour tout ce qui a, a attrait à l'économie, il y a toujours du bon, à mon sens. Et là, on est. Face effectivement à des enfants ou en tout cas un public assez jeune ou non qui peut se poser des questions et qui va pouvoir s'identifier à un super-héros. Je veux dire, pourquoi l'identification du super-héros serait réservée à une partie de la population qui serait majoritairement des hommes cis hétéros?
Alors François vous répond, François qui habite dans le Calvados.
Eh bien moi, bonjour Pauline.
Bonjour.
Moi, Pauline, Je vois ça autrement, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, vous l'avez dit, j'ai entendu, c'est une histoire de marketing, mais l'auditrice avant l'a dit aussi, à force de trop en faire, on provoque le contraire. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je regarde aussi les séries télévisées, et samedi dernier, sur la 3, pour pas la nommer, j'ai coupé, parce que le policier n'avait plus de policier, c'était plutôt parce qu'il y avait une histoire... de deux hommes qui s'aimaient, et moi personnellement qui s'aime ces hommes-là, je m'en fichais un peu.
Mais vous pouvez, mais vous ne voulez pas le voir à la télé quoi, le samedi soir.
Non, c'est pas ça, c'est que les scénarios sont tellement pauvres aujourd'hui, c'est qu'on profite de la situation sociale pour essayer de faire passer un message. Mais sincèrement, que deux hommes
mais
se promènent à côté
message
de moi,
ça me pas. Quel message c'est bah, simplement les scénaristes d'aujourd'hui, ils racontent des histoires d'aujourd'hui. Il y a 70 ans, on ne les racontait pas de la même manière parce que, effectivement, c'était
si
un sujet tabou.
Couple, si c'est une histoire de couple, je le conçois. Si c'est une histoire de couple ou d'amour, je le conçois qu'ils oui. vont la raconter par rapport à aujourd'hui.
Mais au fond, ça vous agace tout. Quand même, c'est ça. Parce que, je vais vous dire, et franchement, je ne vous reproche pas, c'est comme à Véronique tout à l'heure, parce que c'est générationnel. Mais il est possible, pourquoi pas, que ça vous agace qu'on raconte une histoire de deux hommes qui s'aiment, François.
Non, pas du tout. Moi, je l'avais déjà dit, mais j'ai 24 petits-enfants, et dans mes petits-enfants, il y en a certains qui ont des orientations sexuelles qui leur sont propres, et je les respecte, et ils n'en font pas cas pour autant. Je veux dire, il y a eu
mais
dans
c'est se faire
de...
cas pour autant que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que si tu es homosexuel, il ne faut pas le dire.
On a l'impression aujourd'hui que les bandes dessinées font en sorte de montrer que les minorités deviennent la normalité. Mais la minorité peut vivre très bien dans sa minorité sans qu'elle soit montrée du doigt constamment. On entend sur votre antenne, il y a des gens qui ont une orientation sexuelle pas hétéro. On les entend l'après-midi. Moi, je les apprécie très bien. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va les mettre toujours en avant, en disant, bah oui, mais ils sont homosexuels.
Mais c'est pas mettre en avant, c'est ça que je saisis pas dans ces conversations.
On a
il y a simplement, c'est que ce n'est plus caché, mais de la même manière. En fait, c'est pour ça que c'est des biais cognitifs. Quand un homme parle de son amoureuse, en fait, vous ne faites même pas attention. Pour vous, c'est classique, normal, etc. Et vous dites, tiens, il parle de son amoureuse, c'est sympa, etc. Et quand un homme parle de son amoureux, vous dites, ah, non, pourquoi on le met en avant à ce moment-là? Vous voyez, c'est que c'est une sorte de réflexe, me semble-t-il, que vous pouvez avoir. Mais je répète, il n'y a pas une volonté de mettre en avant dans une série, sauf parfois lorsqu'on raconte précisément une histoire entre deux hommes. Mais parfois, ce sont des personnages qui existent dans la vie et qui sont racontés par les scénaristes dans la France d'aujourd'hui.
Oui, mais j'ai l'impression toujours, j'ai quand même cette impression qu'on veut nous imposer une image de société alors que...
Mais on ne l'impose pas, elle est là l'image, au contraire, c'est l'exact contraire. Elle est là l'image de la société aujourd'hui, je veux dire, l'homosexualité n'étant plus cachée comme elle l'était il y a 50 ans, a été même criminalisée il y a encore quelques années. Bah effectivement, elle est au vu de tous. Dans le temps, on voyait pas deux hommes main dans la main dans la rue. Ça ne se voyait pas.
Pourtant, des femmes ont idolâtré Rock Hudson, des femmes ont idolâtré...
Oui, mais elles ne savaient pas que Rock Hudson était homosexuel, si vous me permettez. Oui, 13h50, et ça, c'est... Alors, ce que vous dites, c'est un vrai sujet, on va marquer une pause, mais Rock Hudson, Cary Grant, qui... personne ne savait à l'époque qu'ils étaient homosexuels. Même Jean Marais, qui a fait rêver les femmes pendant des années, à l'époque, on ne savait pas qu'il était homosexuel. On l'a su à la fin de sa vie, pas parce qu'il le racontait, mais dans les années 40, 50, 60, je ne suis pas sûr que tout le public le savait. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.fr.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro,
Laurent Tessier. D'autres actualités peuvent vous faire réagir au standard. Lego veut mettre fin, je cite, aux stéréotypes instaurés depuis de nombreuses années sur ses boîtes de jouets. Le géant va retirer les mentions pour filles et pour garçons. Exemple.
Si vous achetez une boîte de briques pour construire un bulldozer, il n'y aura plus la mention « jouet pour garçon » et pour un château de princesse, fini l'inscription « jouet pour fille ». Sur le site internet de Lego, les produits ne seront plus classés par sexe, mais par thème. Et enfin, sur le catalogue de Noël, il n'y aura plus de catégorie « fille et garçon ».
Que pensez-vous de cette décision ? 32-10. Et un jackpot record ce soir à gagner.
Ah oui !
Aïe, aïe, aïe. 220 millions d'euros sont mis en jeu à l'euro million. Bon, est-ce que c'est indécent de remporter une telle somme? Bah, tout dépend si vous la gagnez ou pas, quoi.
Vous vous rendez compte, si on pouvait simplement se balader dans le temps une fois dans la vie, on avancerait paf de 24 heures. Et pic, on prendrait les numéros de demain. C'est formidable.
Ah ben, pourquoi pas? On
ça
y va?
Ouais, ça, c'est pas Qu'est-ce mal. Que vous en pensez? Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Salut Pascal.
L'heure du crime.
L'heure du crime. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, on va ouvrir un incroyable dossier. C'est le dossier Tony Recco. Joseph Recco, Tony Recco. Il a 87 ans aujourd'hui. C'est l'un des plus vieux prisonniers de France. C'est aussi l'un des plus féroces criminels de l'histoire. 7 morts entre 1960 et 1980, dont une petite fille de 12 ans. Tueur impitoyable. Et il vient de faire sa 21e demande de libération conditionnel. Il a 87 ans, il va peut-être sortir, mais ce qu'il y a de fou dans cette histoire, c'est que les familles des victimes, elles n'ont rien oublié. Et parmi elles, il y a le mari d'une caissière qui avait été tuée, qui l'attend. Il va l'attendre à la sortie de prison pour lui faire la peau. Et il nous le dit dans l'heure du crime.
Donc il ne sortira pas.
Terrifiante histoire. Il a droit à sortir, mais on s'aperçoit
Pourquoi
que...
Pourquoi il a le droit à sortir?
Parce que c'est la 21e demande, parce qu'il est vieux, parce qu'il est, de toute façon, il est éligible à la sortie. Mais les psys disent que même à cet âge-là, il reste encore dangereux. Donc on verra, mais il a des chances de sortir. Mais extraordinaire tout de même qu'après quasiment un demi-siècle, les rancœurs, les haines... Et le ressentiment soit aussi présent, cette envie effectivement de régler son compte.
14h30 tout à l'heure, on est dans le débat Superman qui a un fils et ce fils est bisexuel, c'est ce qu'a annoncé son créateur. Alors François a échangé avec Pauline. Pauline, est-ce que vous avez une remarque peut-être à faire à François ou une question à lui poser?
Simplement la remarque, c'est vrai que j'apprécie pas tellement le terme de minorité, pour la simple et bonne raison que c'est quand même un terme assez négatif qui insinue que ce soit pour la bisexualité ou pour n'importe quel autre sujet culturel, qui insinue quand même que l'assimilation n'est pas faite et qu'il s'agit d'un groupe, entre guillemets, en marge de la société. Sauf qu'à l'heure actuelle, j'estime que les personnes bisexuelles font partie à part entière de la société. Et je peux entendre que cette peut-être surreprésentation dans les séries, etc., des couples homosexuels, bisexuels, etc., peut déranger. Mais d'un autre côté, bon, quand ça influence sur l'histoire, dans le sens où voilà, vous donnez l'exemple que c'était une série policière et qu'au final, il n'y avait plus de...